Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, Gilets jaunes, nuit debout, comité Adama, même combat. Les violences du week-end n'y changent rien. Le mouvement des Gilets jaunes reste un mouvement populaire. Le sondage publié ce jour par l'Institut Harris en témoigne. 72% des personnes interrogées soutiennent le mouvement. Un niveau d'adhésion suffisamment élevé et constant pour aller à l'encontre de l'idée qu'il s'agirait d'une mobilisation circonscrite aux seules classes moyennes des zones rurales. Il est d'ailleurs notable de constater que depuis quelques jours, d'autres colères et d'autres organisations s'agrègent aux Gilets jaunes. Samedi, par exemple, le comité Vérité pour Adama avait appelé à manifester à leur côté. Ce comité, constitué en 2016 après la mort d'Adama Traoré suite à son interpellation par la gendarmerie dans le Val-d'Oise, ce comité est devenu un des porte-voix des quartier populaire de banlieue. Autre présence remarquée, celle de François Ruffin. Le député La France Insoumise est un des rares élus à s'être investi directement dans cette mobilisation, comme il l'avait fait il y a 2 ans avec Nuit Debout, dont il était d'ailleurs un des initiateurs. Du coup, l'idée d'une convergence des luttes fait sa réapparition. Alors ce soir, nous avons choisi de demander à certains de leurs acteurs ce qu'ils en pensent. Gilets jaunes, Nuit Debout, comité Adama, même combat. C'est la question que nous allons poser ce soir à 4 invités, à commencer par vous, Farouk Largo, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous êtes fonctionnaire vacataire, ce qui veut dire que vous n'êtes pas titulaire. Vous êtes membre des Gilets jaunes et vous venez du département du Val-d'Oise, c'est-à-dire pas très loin de Paris.
C'est très bien ça.
Pour discuter avec vous, une autre Gilet jaune, alors elle est en duplex, enfin elle est au téléphone en tout cas, à Flic-Secours dans le département de la Somme en Picardie. Il s'agit de Jeannine Depuite, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes retraitée, membre des Gilets jaunes, je le disais, vous êtes mobilisée depuis le début du mouvement. Vous nous raconterez justement votre mobilisation et ce que vous pensez des évolutions de ce mouvement. Puis pour discuter avec vous, 2 autres invités, alors qui, eux, ne sont pas directement Gilets jaunes, encore que peut-être qu'ils vont s'en revendiquer ce soir. Louise Moulin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes militante sur les questions sociales et environnementales. Ça ne fait pas un métier, mais enfin, en tout cas, ça fait une activité importante. Vous êtes membre de plusieurs collectifs, notamment, je crois, le collectif Les Engraineurs.
C'est bien... Oui, Les Engraineurs, c'est un collectif qui a existé de 2013 à 2016, qui s'est un peu fondu dans Nuit Debout, justement.
Et vous avez fait partie du comité de pilotage de Nuit Debout, comité de pilotage, mais des guillemets autour, parce qu'il n'y avait, c'était pas de manière aussi
non,
officielle.
Comité de lancement, en tout cas.
Alors, comité de lancement, ça sera peut-être plus approprié. Puis 4e invité, Youssef Rakhni, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous présentez comme un militant des quartiers populaires. Vous êtes membre du comité Vérité pour Adama. Donc voilà, je rappelle du nom d'Adama Traoré qui est mort en juillet 2016 suite à son interpellation par des gendarmes. Il y a une procédure judiciaire qui est toujours en cours. Je voudrais démarrer évidemment par un premier tour de table pour savoir si les uns et les autres vous avez manifesté ce samedi. Je vais commencer par vous, Jeannine Depuite. Est-ce que vous étiez dans les manifestations et si oui, où ça?
Alors j'étais dans la manifestation à Flic-Secours parce que je travaillais le matin très tôt et j'ai pas pu prendre le bus. Mais la semaine d'avant, j'étais dans le bus et j'étais sur Paris.
Et ça s'est passé comment le week-end précédent sur Paris?
Alors c'était quand même, on a été gazés, on était là pacifiquement. J'étais d'ailleurs avec Monsieur Ruffin et le fait est qu'on a été gazés sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Et moi j'en ai souffert quand même plus d'une semaine. J'ai eu le palais brûlé par les gaz lacrymogènes.
Farouk Largo, vous étiez dans la manifestation parisienne ce week-end?
Exactement, j'étais aux Champs-Élysées. Donc j'ai été aux Champs-Élysées sur la place de l'Étoile et ouais, le gazage qui était excessif, les tirs de flashball les gens ils viennent manifester démocratiquement et pacifiquement et quand on voit qu'ils ont bloqué les Champs-Élysées pour pas qu'on puisse l'atteindre, donc nous faire une fly zone comme ils ont fait au Champ de Mars, les gens ça les intéresse pas. Donc se faire encercler et gazé et tapé dessus, donc on a pu le voir le 24, et c'était impressionnant cette technique d'essuie-glace et les gens qui tournaient pour faire le tour et repasser derrière les CRS.
Enfin pacifiquement, c'était sans doute le cas de la majorité des manifestants, mais on a bien vu que tous les manifestants n'étaient pas pacifiques, étant donné les dégâts et les affrontements qui ont pu avoir lieu. Je termine mon tour de table. Youssef Rakhni, vous, j'imagine que si vous n'y étiez pas, en tout cas, des membres du comité y étaient, puisque vous aviez appelé à rejoindre cette manifestation.
Oui, on y était samedi. ce samedi. Alors nous, on n'a pas eu la chance d'accéder aux Champs-Élysées, puisqu'on a eu le droit à un comité d'accueil dès le départ. Nous, on a tenu à faire un départ d'abord à Saint-Lazare, puisqu'on a lancé un appel au quartier populaire, mais aussi avec plusieurs alliés comme la coordination des cheminots, qui s'appelle les cheminots de l'Intergare, qui regroupe plein de cheminots de toutes les gares, en dehors des grosses structures syndicales classiques. On a aussi avec l'action antifasciste Paris-Banlieue, c'était important qu'il y ait, voilà, cette notion d'antifascisme, puisqu'il y a des groupes, il y a des éléments d'extrême droite présents qui sont très minoritaires, ça c'est clair, c'est sûr, c'est surestimé, mais malgré tout ils sont là, ils sont présents, ils sont très violents et ils ciblent certaines personnes comme les militants des quartiers, etc. Voilà, la plateforme d'enquête militante qui bouge aussi sur des gros centres de logistique dans des grèves, etc. Donc on a voulu partir donner un peu cette teinte de gauche, cette teinte voilà antiraciste, anticapitaliste aussi. Et voilà, on est parti de Saint-Lazare, on est parti par Opéra et on a été tout de suite bloqué rue de Rivoli à l'entrée de la Concorde par des canons à eau. Et donc c'est là qu'il y a eu tous les incidents autour des Tuileries, la grille qui s'est voilà, que les manifestants ont forcé. Il y a quelqu'un qui est dans le coma là, qui est vraiment très sérieusement atteint. Voilà, s'ils avaient laissé passer les gens pacifiquement aller sur la Concorde, il n'y aurait pas eu tous ces incidents, quoi. Ils sont vraiment irresponsables.
Alors je poursuis ce premier tour de table autour de cette double question. Où étiez-vous et que faisiez-vous ce samedi, Louise Moulin?
Mais samedi, j'ai rejoint deux manifestations qui me touchent. J'ai rejoint à la fois l'appel du collectif Vérité pour Adama et dans le même temps la fête à Macron auprès de François Ruffin, et nous avons défilé dans le même cortège. Donc j'ai vécu la même chose que Youssef Brakni. On s'est croisés plusieurs fois pendant la manifestation.
Alors vous, Louise Moulin, qui avez connu et qui avez vécu de très près hein, cette expérience qui a été Nuit Debout, je crois que vous y êtes resté quand même assez longtemps, peut-être pas sur toute la durée, mais enfin en tout cas une partie assez importante de ce mouvement. Comment est-ce que vous voyez le mouvement des Gilets jaunes au début, c'est-à-dire est-ce que c'était quelque chose qui vous intéressait, qui vous interpellait ou qui vous semblait assez éloigné des revendications et des mobilisations qui ont pu être les vôtres?
Écoutez, mon avis a été difficile à stabiliser, d'ailleurs ça bouge encore, mais nous sortions de réflexions avec François Ruffin justement sur la question de la collapsologie, avec l'auteur Pablo Servigne, la question de l'effondrement écologique et tout ça, donc... Il est vrai que le premier jour, voir des gens qui manifestaient pour le prix de l'essence, ça nous semblait un petit peu décalé. Et en même temps, très vite, moi, je me suis dit, en fait, le prix de l'essence, c'est le prix du pain, quoi. C'est des gens qui ont du mal à finir leur fin de mois. Je viens de province aussi, donc je vois bien ce que peut représenter un plein d'essence dans une voiture. Ça a bougé très très vite. Après, c'est vrai qu'on a mis du temps à démarrer. On a mis du temps à démarrer et à publiquement assumer d'en être, et notamment par les manifestations de l'extrême droite dans les rangs, parce que autant à Nuit Debout, on tenait une place et un périmètre circonscrit qui faisait qu'on pouvait repérer, identifier les têtes d'extrême droite et les sortir de la place, autant sur un mouvement comme les Gilets jaunes, c'est difficile de dire aux gens changer de rue. Voilà.
Jeanne Depuyt, deux éléments qu'a abordé Louise Moulin, à la fois sur le contenu des revendications. C'est vrai qu'au tout début, on parlait essentiellement de la question des prix de l'essence. Quelle place cette question-là, elle occupe aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes, et sur, on va dire, son orientation politique, qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui?
Alors, par rapport à aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, évidemment, le prix du carburant est très important pour les Gilets jaunes, mais il n'y a pas que ça. Les revendications sont quand même assez énormes. Évidemment, on sait très bien que dans toutes les revendications, il n'y en aura que quelques-unes qui pourront être tenues. Et puis surtout avec des budgets auxquels on pourra s'attaquer pour pouvoir avoir justement certaines de ces revendications. Mais au niveau politique, je pense que... votre question, c'était ça concernait au niveau de... Comment je pourrais dire ça au niveau de ce que les politiques essayent de nous faire passer comme message par rapport à cette situation ou pas?
Non, pas forcément ce que les politiques essaient de faire passer comme message, mais en tout cas la coloration, on va dire, politique de cette mobilisation. C'est vrai qu'au départ, on y a vu plutôt une mobilisation qui allait chercher ses sources dans le poujadisme, une manifestation plutôt réactionnaire, avec effectivement certains éléments d'extrême droite. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est un mouvement qui a une coloration politique particulière, plutôt à droite, plutôt à gauche ou plutôt pas, plutôt rien de tout ça.
Bah, les Gilets jaunes, bon, chacun a ses idées politiques, sachant que nous, on a reçu Ruffin sur notre secteur fixe court. Ça s'est très bien passé, que le message est passé aussi. Mais il n'y a pas de récupération. Moi, je pense que quand le gouvernement parle de récupération politique, bon, nous, on n'a pas laissé passer ça. Donc, on n'est pas concerné. C'est vrai que dans le Sud, il y a plus de récupération politique, puisque, étant à une émission hier, j'ai pu constater que La République En Marche avait tendance à essayer de faire de la récupération politique, malgré qu'ils étaient silencieux un certain temps depuis le début. Et ça, c'est un peu une face cachée de leur part. Et nous, on n'est pas d'accord, on les veut pas sur le terrain, on n'est pas intéressé par eux déjà. Et puis en plus, ils n'ont aucune réponse à nous apporter, à part avoir des phrases qui sont répétitives sur différentes chaînes. Donc ça, on peut pas entendre, ils sont pas convaincus eux-mêmes par ce qu'ils essayent de porter comme message. Donc nous, on n'est pas intéressé. On veut des gens qui, face à nous, qui se permettent, qui pourront nous répondre par rapport à nos demandes, parce qu'il n'y a pas que le carburant, il y a l'écologie, il y a tout ça. Nous, parce que quand on nous dit vous êtes les Gilets jaunes, vous êtes contre l'écologie, c'est faux, c'est totalement faux. On est pour l'écologie, mais on ne nous donne pas les moyens.
Alors on va justement aller dans un instant sur les revendications pour voir quelles sont les revendications qui peuvent se retrouver en commun dans les différents mouvements que j'ai cités depuis le début de cette émission, mais toujours sur, en fait, on va dire, sur la tonalité politique du mouvement et sur le fait, Farouk Largo, que quel est votre point de vue à vous ? Essayez de dire finalement tous ceux qui ont envie de rejoindre ce mouvement sont les bienvenus ou bien est-ce que certains
Exactement.
Sont toutes mieux venus que d'autres, disons ?
Toute bonne initiative est bonne à prendre. Donc moi je voudrais parler des revendications donc par rapport au référendum citoyen. Donc revenir à de la démocratie.
Si vous voulez bien, pardonnez-moi, enfin, Farouk Largo, on va y venir dans un instant justement sur ces revendications-là parce qu'il me semble que c'est un des points communs effectivement importants entre par exemple Nuit Debout, entre le comité pour Adama et puis les Gilets jaunes. Mais en tout cas sur l'idée que ça puisse fédérer comme ça tout un tas d'autres organisations et d'autres mouvements et d'autres famille politique, celle à laquelle vous appartenez, si jamais vous appartenez à une famille politique, est-ce que ça, pour vous, ça ne pose aucun problème ?
Ben écoutez, tant que c'est de la citoyenneté, que ça soit élu, tant que ça ramène, on va dire, une bonne cohésion pour qu'on puisse se sortir de ce problème qui est la surtaxe. Donc, cette taxe, elle est liée à une dette qu'on doit payer. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir à de la politique d'initiative populaire pour avoir des référendums, remettre le citoyen au cœur des choses, choisir la destinée et ne plus faire confiance à ces politiciens qui nous ont mis dans cette situation-là depuis 2008. Depuis la crise financière, on est toujours dans cette crise monétaire, financière, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, je voudrais parler de cette initiative populaire parce
Alors,
que
je vous promets qu'on y revient juste après, mais comme on essaie de faire un petit peu tout le monde et sur des thèmes un peu précis et que Youssef Brakni voulait intervenir,
oui, parce que sur la question de ce qu'était ce mouvement et qu'est-ce qu'on en pensait, etc. Alors c'est sûr que quand moi j'ai vu ça au départ, j'ai vraiment vu la France, ce qu'on appelle la France profonde, quoi, et une France profonde périurbaine, parce qu'en vrai le monde rural ça n'existe pas, c'est une construction idéologique.
Je sais pas si la France périurbaine existe beaucoup plus. Hein,
oui, là, en fait si, parce qu'elle existe beaucoup plus qu'il y a des il y a eu plein d'articles, plein de chercheurs qui ont travaillé sur d'où venaient les gilets jaunes. En réalité, les gilets jaunes, ils sont beaucoup en ville dans les zones périurbaines, en fait. Enfin, c'est 90% des gilets jaunes. En fait, au monde rural, il n'y a personne, il n'y a plus personne. Et donc, voilà, c'est important. Et ce d'autant plus, je le dis, puisque j'ai fait une conférence là récemment avec Édouard Louis, l'écrivain Édouard Louis, sur quartier populaire en banlieue et monde rural.
Voilà,
et donc,
on a déconstruit de votre comité.
Voilà,
aussi.
Et on a déconstruit cette notion-là, etc. Et donc, je me suis dit, ça c'est quelque chose qu'on a toujours cherché à opposer. C'est qu'on a toujours cherché à opposer les quartiers populaires à cette France-là. Et on a toujours vu Marine Le Pen, l'extrême droite notamment, la droite aussi républicaine, et une partie de, enfin, quasiment tous les échiquiers politiques, toujours opposer la jeunesse des quartiers populaires quand elle se révoltait, et je dis bien révoltée, je parle de révolte, à cette France-là aussi qui est au bout du bout, mais qui elle ne se révolte pas, ne casse pas, ne brûle pas. Et qu'est-ce qui se passe ? On voit ces images. On voit ces images de personnes révoltées qui en ont ras-le-bol, oui, qui brûlent, oui, qui cassent. Mais ils en peuvent plus. Les gens sont à bout. Ils sont à bout comme l'ont été les quartiers populaires en 2005. Où, effectivement, ils ont tout brûlé, ils ont tout cassé suite à la mort de deux enfants.
C'est en voyant...
Et ça, c'est important, ça, pour moi.
Et alors, du coup, pour vous, Youssef Rakhni, c'est en voyant cette colère et cette colère s'exprimer, notamment, justement, dans des dégradations, que vous êtes dit, là,
on
vit la même chose.
Voilà, on vit la même chose.
Mais avec quel diagnostic sur la base?
C'était intéressant pour moi de voir, en plus, que les réactions politiques n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que là, il y a eu un soutien, quand même. Et donc, tout de suite, nous, on s'est dit, il faut prendre position. Et on a vu en même temps, et ça faut le dire quand même, on a vu Marine Le Pen essayer de surfer dessus, etc. On s'est dit, il faut l'investir avant que l'extrême droite ne l'investisse vraiment. Parce que si les Gilets jaunes ne voient pas d'autres forces politiques, parce qu'en fait, c'est pas possible, sans force politique dans ce pays, ça marche pas. Faut pas non plus être dans le truc de rejeter, dès qu'un truc est un peu organisé politiquement, on le rejette. Non, moi je pense qu'il faut des forces politiques, il faut des gens organisés, qui ont un discours politique, qui investissent ce mouvement aussi, et qui surtout lui donnent une orientation qui ne soit pas une orientation contre les migrants, contre des gens en fait plus faibles que ces gens-là, en fait. Et ça, c'était important pour nous d'y être, de l'investir et d'y être massivement avec nos revendications à leur côté, en disant mais on vit la même chose avec des spécificités, on va y revenir. Mais en tout cas, c'était important de ne pas laisser le terrain. Et moi, je me suis reconnu dans cette colère.
Alors justement, sur cette question des fractions territoriales qui sont énormément avancées dans le débat public aujourd'hui pour essayer de comprendre notamment la crise qui couvre au sein de la société française, j'aimerais avoir, là aussi je vais refaire un tour de table, et puis après promis, Farouk Largot, on ira sur la question des propositions que vous faites, notamment au niveau démocratique, mais est-ce que vous pensez, comme on l'entend souvent, qu'il y a vraiment une France qui est fracturée entre, en gros, il y aurait, alors même si vous nous dites que le monde rural, mais alors parlons de la France périurbaine si vous préférez, Youssef Rakhni, il y aurait la France des quartiers populaires, la banlieue, et puis la France des centres-villes qui s'est peut-être davantage manifestée à travers un mouvement comme Nuit Debout, Louise Moulin. Quand vous étiez au sein de Nuit Debout, est-ce que c'était facile, par exemple, justement, d'élargir votre champ avec des personnes qui venaient d'autres milieux que celui des militants qui étaient plutôt, me semble-t-il, des intellectuels, alors pas forcément aisés, hein, peut-être précaires, mais en tout cas plutôt dans le milieu intellectuel.
Il y a des sociologues qui sont passés sur la place de la République pour regarder un peu quels étaient les profils des gens. Et puis Nuit Debout, c'était pas que Paris, même si Paris était l'épicentre de cette manifestation. Il y avait par exemple 20% de chômeurs. 37% des gens, en tout cas, qui ont accepté de parler, n'habitaient pas Paris, venaient de banlieue. En l'occurrence. Alors après, on n'a pas réussi à faire la convergence. En fait, l'idée de Nuit Debout, c'était pas tant de faire converger des citoyens sur la place que des luttes. L'idée, c'était de rassembler tous les gens en lutte pour les amener à se poser la question. Enfin, en tout cas, à désigner un ennemi commun qu'on nommera plus tard. Mais voilà,
je me souviens quand même qu'il y a eu des tentatives pour aussi essayer d'exporter peut-être davantage Nuit Debout justement dans les quartiers populaires, et que c'était assez compliqué. Hein.
Bien sûr, c'était compliqué, mais parce qu'il y a eu abandon des partis traditionnels de gauche des quartiers populaires et qu'à l'époque, depuis on s'est rencontrés. Enfin, je veux dire, c'est aussi en faisant ce genre de choses qu'on se rencontre et qu'on en parle et qu'on avance. Mais effectivement, à l'époque, moi je connaissais pas Youssef Rakhni, je connaissais pas beaucoup de jeunes issus des quartiers populaires et les gens autour de moi non plus. Enfin, voilà.
Ça travaille justement suite au constat de Nuit Debout, en fait. On s'est rencontrés à cette occasion.
C'est suite à Nuit Debout, en fait, qu'on a commencé à faire des alliances, justement. La convergence, elle s'est faite après. Mais
Vous, Farouk Largot, qui venez du département du Val-d'Oise, de la ville de Sarcelles, je crois, qui pourrait justement peut-être synthétiser à la fois ce que représentent les Gilets jaunes et puis ce que peut représenter aussi cette revendication des quartiers populaires. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez que justement, ces quartiers, c'est aussi une mobilisation qui est en train de prendre.
Oui, exactement. Donc, comme on est issu de la banlieue très proche, donc on est à un quart d'heure, 20 minutes des Champs-Élysées, donc on se mobilise pour Paris. Donc, les banlieusards qui sont proches de la capitale viennent directement manifester sur Paris. Donc, j'ai vu beaucoup de gens issus de la diversité et c'était multiculturel. C'est un mouvement qui est citoyen. Pour revenir à des choses beaucoup plus essentielles, remettre le référendum d'initiative populaire, remettre les citoyens dans le jeu politique. Comment on peut réussir à converger dans les luttes avec tous les Français qui ont du mal à joindre les deux bouts? Donc là, c'est devenu carrément un problème sociétal. Il faut y remédier et la seule solution, donc je peux vous citer.
Alors, vous cherchez sur votre portable, ça je le dis pour les auditrices
oui.
et les auditeurs.
Donc la dette est une construction artificielle créée par les banquiers avec le consentement des États pour dépouiller les peuples et en faire des esclaves à leur solde. Les gouvernements sont au courant et ils le savent.
C'est quoi, est-ce que, pardonnez-moi pour qu'on comprenne bien, vous êtes en train de nous lire quoi là? C'est un texte que vous avez écrit ou c'est issu d'une plateforme de revendication? C'est quoi ce texte?
Ce texte, c'est Michel Rocard. Michel Rocard, en 2015. Donc, je vais finir. Et ils laissent faire. Donc, honte à eux, honte à tous ceux qu'ils ont laissé faire. Donc,
il a bien laissé faire quand même.
Exactement. Donc,
Michel Rocard,
ce référendum populaire, j'ai mis dedans, parce que qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour effacer toutes ces taxes? Toutes ces taxes, ils sont liées, les surtaxes, à la dette. Donc, effacer cette dette souveraine de la France, c'est effondrer toutes les taxes, que ce soit pétrolier, impôt sur le revenu, impôt des sociétés. Et
donc
grâce
vous,
à ça...
En tout cas, si je comprends bien, donc vous demandez un référendum d'initiative populaire pour qu'on efface la dette. C'est ça, ça serait le premier objectif. Alors, le référendum populaire, c'est un outil démocratique. On voit bien à quel point c'est une question qui fait plus qu'émerger hein, dans ces différents mouvements et dans cette congruence qu'on peut trouver entre les différents mouvements. Quelle place vous mettez, vous, Jeannine Depuytte, dans ces questions de démocratie? C'est-à-dire, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi une demande de quoi? Une demande d'une meilleure représentativité par les élus ou c'est plutôt une demande de pouvoir peut-être, je sais pas, renverser la table, renverser le régime? Comment est-ce que vous voyez les choses, vous?
Alors, pour renverser le régime, on a du travail. Ça, c'est pas comme ça. Pour les Gilets jaunes, en fait, c'est d'être connu. D'être connu parce que l'État, aujourd'hui, va être obligé de faire avec les Gilets jaunes. Ensuite, le fait de nos... Je ne sais pas si je peux parler tout de suite de nos revendications.
Allez-y, de manière... Comme l'ordre de la discussion voilà, est un petit peu chamboulé, donc n'hésitez pas.
Comme monsieur vient de le dire, l'effacement de la dette, ça serait super, déjà, de pouvoir le faire. Ça, c'est... franchement, je suis d'accord. On est d'accord. Ensuite, le CICE, des 40 milliards de CICE qui ne sont pas redistribués, aux salariés, il y a quand même dessus une possibilité qu'on puisse donner le 200 euros à chaque personne à partir du moment qu'ils sont salariés de classe moyenne jusqu'aux retraités, aux chômeurs et autres. C'est le manque à gagner qu'ils ont chaque mois. Chaque mois, chaque personne a des difficultés à boucler le mois. Les 200 euros pourraient permettre d'éviter d'avoir des agios, de pouvoir pourvoir peut-être une sortie pour les enfants que la plupart des parents ne peuvent plus aujourd'hui, ou alors pouvoir se faire un petit week-end pour les enfants aussi, parce que les enfants ils sont beaucoup oubliés dans cette histoire. Les enfants dans les familles qui ont des difficultés, qui leur manquent 200 euros. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme.
Alors, on va pas faire toutes les revendications, Jeannine Depuytte, ne serait-ce parce qu'il y en a énormément et qu'elles mériteraient tous presque un examen assez attentif. Mais en tout cas, cette deuxième proposition, donc on supprime le CICE et avec l'argent qu'on récupère, on le redistribue aux familles qui en ont le plus besoin. Mais pour porter ces revendications-là, il faut une organisation. Alors, il y a un mouvement des Gilets jaunes, mais avec une difficulté, on voit bien peut-être aujourd'hui à se structurer. Est-ce que vous, en tout cas, vous vous dites, on a aussi besoin d'autres mouvements qui ont peut-être davantage d'expérience que la nôtre pour nous aider à essayer d'avancer?
Oui, tout à fait, parce que tout le monde se reconnaît dans les mouvements dans le mouvement du Gilet jaune. Là, je viens d'entendre la demoiselle qui parlait de Nuit debout. On est tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se rejoignent et qu'on peut faire. Et plus on sera nombreux, plus on aura impact. Et on aura une réussite dans nos demandes. Et ça permettra justement d'éviter d'avoir cette horreur comme on a vu samedi dernier.
C'est aussi dans l'idée de faire masse, Youssef Brakni, vous êtes dit, c'est bien qu'on se rapproche des gilets jaunes, c'est-à-dire de, plutôt que d'avoir des mouvements qui sont autonomes les uns par rapport aux autres, essayer de peser davantage en vous réunissant, même s'il y a sans doute, j'imagine, des points sur lesquels vous pouvez avoir des désaccords, ne serait-ce que parce qu'au sein même du mouvement des gilets jaunes, tout le monde n'est pas d'accord sur toutes les revendications, ce qui est normal étant donné la nature du mouvement.
Après, le moteur de ce mouvement des gilets jaunes, c'est l'inégalité, en fait. C'est ce qui revient tout le temps, l'inégalité autour de l'impôt, autour des taxes, etc. Parce qu'en fait, la taxe sur le diesel, c'est une taxe sur le droit de polluer, en fait. Aujourd'hui, puisqu'en fait, la France doit payer un droit à polluer. Or, c'est vrai que c'est complètement absurde, enfin, c'est complètement dingue qu'on fasse porter à la masse, et surtout aux plus pauvres, aux catégories les plus pauvres, le fait du droit, enfin, sur le droit à polluer, en fait. Alors que ceux qui polluent le plus, ce sont les gros industriels, ce sont les grandes entreprises, c'est l'agriculture de masse, c'est l'élevage de masse, etc., etc., industriel, en tout cas. Et c'est vrai que c'est une injustice tellement criante que, voilà, ça fait, je me suis dit, ah, les Français sont pas morts. En fait, c'est encore vivant, là. Et franchement, en fait, on devrait tous s'en féliciter de ce mouvement. Ça veut dire vraiment que la France n'attend pas les partis politiques, n'attend pas les grosses organisations syndicales pour se bouger. Et nous, en fait, c'est un peu la même chose. Donc, je reviens toujours sur les quartiers populaires. Parce que nous aussi, en fait, on n'est pas morts. Nous aussi, quand il y a un mort, par exemple, entre les mains de la police, quand il y a une injustice, etc., on se révolte, on se met debout, on se laisse pas faire, etc. Et à l'image de ce qu'on a fait autour du comité Adama. Le comité Adama aussi, c'est quelque chose qui a émergé de nulle part. Personne nous a vu venir. Personne n'a vu venir ce mouvement. Et aujourd'hui, il est en train de tout bousculer. Il chamboule à gauche, ça chamboule les Ruffin, Lordon, etc. Mais on a fait bouger les lignes parce qu'on, voilà, c'est quelque chose qui vient vraiment de la base, qui a été spontané.
Et quand vous êtes allé voir les gilets jaunes, alors je sais pas qui vous êtes allé voir d'ailleurs, mais quelle a été la réception quand vous leur avez...
Les gilets jaunes, ça a été une réception chaleureuse. On est parti de Saint-Lazare. En fait, il y a, je sais pas, peut-être 2000 gilets jaunes qui nous ont rejoints d'un coup, avenue de l'Opéra. Je sais pas si tu te rappelles. Ils sont arrivés parce qu'ils ont été refoulés devant l'avenue, je sais plus quelle avenue, en accédant sur l'Étoile. Ils sont venus, ils étaient à fond avec nous, quoi. Je veux dire, il y avait aucun problème, au contraire. Et surtout, quand on en, voilà, notre discours, c'est quoi? C'est de dire qu'en fait, nous, ces inégalités-là, dans les quartiers populaires, c'est puissance 50, c'est puissance 10. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Le libéralisme économique, les politiques de Macron, etc., l'impact dans les quartiers populaires, mais il est énorme. Et j'ai même envie de dire, mais est-ce que les gens dans les quartiers populaires, quand on regarde le pourcentage de chômeurs, c'est 40% de chômage dans certains quartiers. La moyenne nationale, c'est 10%. On en est là dans les quartiers populaires. On n'en est pas à vivre. Enfin, on en est à survivre. Voilà, on en est là dans les quartiers. Donc, c'est impossible pour nous de rester à la marge d'un mouvement social comme celui-ci en y ajoutant la question du racisme et des violences policières. La dame, je termine sur ça, la dame juste avant, qu'est-ce qu'elle a dit en premier lieu? Elle a dit, je me suis fait gazer, c'était disproportionné, c'était pas justifié. Ce que nous dénonçons depuis des années en disant, regardez, les violences policières, elles sont disproportionnées, elles sont pas normales, elles sont pas contrôlées en France. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un débat à avoir aussi sur la question de la police, parce que on a beaucoup parlé des violences, mais on n'a pas assez parlé de toutes les vidéos qui ont circulé, etc., où on voit une personne, un petit qui s'appelle Mehdi, 20 ans, qui a été lynché par 8 policiers. 8 gendarmes même.
Une des choses que vous avez dit tout à l'heure, Youssef Brakni, c'était de dire notamment, on ne peut pas non plus se passer des politiques. Louise Moulin, une des choses qui a pu être reprochée au mouvement de Nuit Debout, je vous fais pas la porte-parole non plus de Nuit Debout, hein, parce qu'il n'y avait pas de porte-parole officielle, ça, faut bien le rappeler, mais en tout cas, une des choses qui a été en tout cas reprochée, ou en tout cas, un des constats qui a été fait à la fin de Nuit Debout, c'est que peut-être un manque de revendication très claire, avec peut-être une organisation un petit peu plus structurée, faisait qu'on avait l'impression que ça s'était terminé pardonnez-moi l'expression, mais un peu en eau de boudin. Est-ce qu'en tout cas, l'expérience qui a été la vôtre dans le cadre de ce mouvement vous permet peut-être aujourd'hui de dire, peut-être des erreurs à ne pas faire quand on lance un mouvement comme ça, qui part vraiment d'en bas, et qu'on veut le faire aboutir à des résultats? Parce que j'imagine, je vais revenir dans un instant vers Farouk Largot et Jeannine Depuyt, que l'idée, c'est quand même d'obtenir des résultats concrets.
Nuit Debout avait la particularité, alors il venait pas vraiment d'en bas, quoique il y avait les plans sociaux, les Goudières, les Air France, il y avait des gens de l'hôpital, il y avait quand même pas mal de...
Quand je dis d'en bas, je pensais pas en termes sociaux, mais je pensais plus, ça venait pas de politique,
non,
ça venait pas des représentants.
Non, d'autant plus que François Ruffin, à l'époque, était journaliste, il n'était pas encore député. La difficulté qu'on a eue, c'est qu'il était impossible de structurer un mouvement autour d'une foule qui rejoignait chaque jour la place et qui était différente tous les jours. Et en plus, quand on a 2000, 3000 personnes sur une place, il y a plein de courants divergents. Il y a beaucoup de gens. La base de Nuit Debout, on était des gens clairement de gauche. et on croit dans les clivages politiques. Moi, je conchis le nid droite, le nid d'Emmanuel Macron, ça, et je fascisme, pense que ça peut conduire qu'au fascisme.
Je pense que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi des gens de droite, il y a aussi des gens d'extrême droite. C'est extrêmement large.
La difficulté qu'on a eue, c'est qu'il était impossible de structurer Nuit debout une fois que la place était prise. C'est-à-dire que on a lancé Nuit debout avec des revendications radicalement de gauche, qui allaient de la critique de la représentativité aux médias, tous tenus par la caste des mêmes bourgeois, des mêmes puissants qui partagent des communautés d'intérêts.
Je ne sais pas si c'est typiquement de gauche, hein, ce genre de d'approche. Bref, petite parenthèse.
On parle souvent, on entend beaucoup en ce moment dans les médias parler de populisme, on entend rarement parler de bourgeoisisme, mais on pourrait en parler aussi. Le problème, c'était vraiment Nuit debout. On avait le début, c'était questionner, c'était même renverser la table des règles du jeu démocratique. C'est-à-dire, la démocratie, c'est pas nécessairement la représentativité. En fait, la représentativité, on n'en veut plus.
En tout cas, même avec un mouvement qui était très ancré à gauche, c'était compliqué de le structurer.
Oui, mais il faut voir aussi dans quelle mesure Nuit debout n'a peut-être pas préparé aussi les Gilets jaunes. Le fait de voir des gens sortis de nulle part, des gens pas aussi dans des organisations politiques. Moi, j'ai été à Nuit debout, j'ai vu plein de gens pas du tout organisés. Il faut voir aussi comment ça n'a pas participé. Là, on voit sur un temps, on a l'impression que c'était il y a longtemps. En fait, c'était hier et sur le temps de l'histoire.
C'était il y a deux ans.
C'était.
Justement, Farouk Largo, Nuit debout, c'est quelque chose que vous aviez repéré, qui vous avait intéressé à l'époque. Vous en aviez pensé quoi, vous?
J'en ai été informé par les médias. J'ai un peu regardé dans les réseaux sociaux. C'est vrai que cette lutte, il faut dire, la précarité sociale, elle est à toutes les échelles dans ce pays. Donc, et les banlieues, ils ont mangé plus que tous les autres réunis. Nous, ça fait plus de 30 ans, on tourne à 30 et à 40% de chômage. Donc là, c'est le moment du réveil démocratique, pacifique et citoyen. On demande ce référendum d'initiative populaire pour mettre un maximum de citoyens français dans le coup. Ça parle plus qu'aux Gilets jaunes. Je vais vous citer quelqu'un. Quand François Hollande nous dit « son ennemi, c'est la finance », j'ai applaudi des deux mains. Mais quand il nous a fait du sociétal, là, je me suis plus retrouvé dans François Hollande. Donc, on veut une politique socio-économique.
Puisque votre obsession, et je dis ça, ça n'a rien de péjoratif, Farouk Largo, mais en tout cas, c'est ce référendum d'initiative populaire. Est-ce que ça veut dire que pour vous, un référendum d'initiative populaire, le nom veut dire que c'est quelque chose qui vient du peuple. Est-ce que ça veut dire que vous n'attendez rien de la part des représentants politiques? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une démocratie représentative. Il y a des parlementaires, des députés, des sénateurs qui sont là aussi pour faire changer la loi, pour la faire évoluer si on considère qu'elle est mauvaise. Est-ce que vous, ça veut dire que vous n'avez pas confiance ou plus confiance dans le personnel politique?
Écoutez, citez-moi une avancée sociale. Ils font que de la casse sociale. Au niveau, Bruno Le Maire qui cite qu'il y aura des restrictions au niveau budgétaire par rapport à la fonction publique, là ça devient grave. Donc la gratuité des services publics, c'est une des choses qu'on va mettre en pratique. Donc la gratuité des services publics, ça met les Français à même niveau sur tout le pays. Donc enlever des fonctionnaires, que ce soit les hôpitaux, ambulanciers, policiers, on peut aller très loin là, dans tous les fonctionnaires d'État qui sont qui ont du mal à joindre les deux bouts. Là, c'est la révolution des casseroles. Qu'est-ce qu'on met à la fin du mois dans notre gamelle? Là, on a touché vraiment la chose vitale. Donc, ok, c'est le gasoil, mais le gasoil, il fait quoi? Il t'emmène à aller travailler pour que tu puisses manger. Donc, cette révolution, moi, qui m'intéresse, c'est la révolution islandaise, la révolution des casseroles. Donc, ils sont sortis avec des casseroles pour leur dire « on a faim ». Et le peuple a faim. Et le gouvernement nous parle des casseurs. Ils ont occulté le vrai problème des Français. C'est de s'en sortir par leur travail.
Jeannine Depuit, qui sont vos interlocuteurs aujourd'hui? En tout cas, qui seraient les interlocuteurs que vous aimeriez à avoir par rapport à ce mouvement? Je crois que vous vouliez notamment rencontrer le préfet de la Somme. Je ne sais pas si est-ce que ça s'est fait. Est-ce
Il
que
n'a
ça va se faire
répondu à aucune de nos demandes. Et ensuite, on est totalement ignoré, ce que je trouve inadmissible, parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous écoute, qu'on écoute nos revendications, qui sont tout à fait légitimes. Et je rejoins là-dessus la personne qui a parlé juste avant. La France va très mal, les gens vont très mal, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, ils ne mangent plus le trois quarts du temps à partir du 15 du mois, c'est un repas par jour. Et quand vous entendez des personnes comme Madame Schiappa qui dit bah, les retraités, au lieu de manger trois repas, ils n'ont qu'à manger deux repas, c'est inadmissible. À partir du moment qu'elle augmente son personnel, parce qu'elle trouve qu'à 5000 euros, ils peuvent pas vivre par mois. Et on nous oblige, nous, à vivre avec moins de 1000 euros. Donc ça, c'est inadmissible. Ces gens-là, on n'en veut pas au gouvernement. Ils ne sont pas intéressants puisqu'ils ne feront pas avancer les choses. Ils vont faire que de nous enfoncer. Vous savez, il y a un dicton qui se dit moi, je suis en train de me noyer et en fait, mon banquier, au lieu de me jeter une bouée, il me jette l'enclume. Donc ça veut tout dire. La France, le gouvernement aujourd'hui, c'est la même chose. Il ignore jusqu'à ce que ça arrive des journées comme la semaine dernière et la prochaine, j'ai extrêmement peur de ce qui peut se passer, parce que les casseurs, on dit les casseurs, mais les casseurs c'est qui? Les casseurs c'est des jeunes qui se retrouvent sans travail, qui sont perdus, qui sont pas entourés, encadrés, et qu'on les met, on les parque dans des cités, et après ils sont complètement paumés. Et évidemment, une situation comme les gilets jaunes, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mêlent à la foule, parce qu'ils se sentent un peu en force. Et puis c'est là qu'ils vont casser, alors que quand même Monsieur Castaner pouvait éviter tout cela. Hein. Et franchement, c'est abusé, quoi. Donc là, oui, dans les politiques, moi j'ai rencontré Monsieur Ruffin, j'ai trouvé qu'il était plus terre à terre. Et moi, il vient ici en moto, il vient pas avec une voiture de fonction, comme j'ai pu rencontrer, voir sur les écrans, un député de République En Marche, avec chauffeur, voiture de fonction. Monsieur Ossin, je l'ai jamais vu en voiture de fonction, et il vient en blouson, et il vient sans étiquette, et il est là pour nous écouter, retenir nos doléances, et franchement, il en faut beaucoup plus que lui.
Je précise quand même qu'il ne s'agit pas non plus de faire une émission entièrement à la gloire de François Ruffin, parce que voilà, il y a quand même d'autres parlementaires, il y en a d'autres qui s'intéressent à ce mouvement, et voilà. Juste, j'ai entendu quand même le terme révolution, on parle aussi beaucoup de crise de régime aujourd'hui, pour terminer, Louise Moulin et Youssef Brakni, sur ces termes-là, est-ce que c'est en tout cas l'horizon qui est celui des mouvements auxquels vous participez ou vous avez participé, Louise Moulin?
D'une certaine façon, oui. L'idée, c'est quand on parle de renverser la table, ça fait partie des questions, bien sûr. Et il y a la déconnexion des élites. Farouk disait, parlait des partis au pouvoir. Les partis au pouvoir, depuis 30 ans, mènent les mêmes politiques économiques, de casse sociale, les mêmes réformes rétrogrades, et se différencient qu'à la marge sur des questions sociétales. C'est clair, on n'entend plus parler de questions sociales. Le social, ça a disparu. On ne parle plus des peignes-culs, des prolos, des petites gens. On n'entend plus ces mots-là. Ça, les classes moyennes. Voilà, on parle des classes moyennes. Donc il y a un vrai problème. Il y a plein de gens qui veulent faire de la politique. Il y a plein de gens qui ont envie de pouvoir donner leur avis, de participer aux choix de société, la société dans laquelle on vit, de savoir, de choisir ensemble. J'en sais rien, la politique agricole commune, qu'est-ce qu'on mange, comment on élève les animaux, est-ce qu'il faut qu'on mange moins de viande, est-ce qu'il faut qu'on... Je sais pas, enfin, il y a plein de questions pour lesquelles on a des outils, il y a des médias publics, il y a des chaînes de télévision publiques, il pourrait y avoir des grands débats. Il n'y a pas d'espace dans lesquels on peut faire des grandes assemblées citoyennes. Quand on était à Nuit Debout, Anne Hidalgo nous a dit qu'on privatisait la place de la République. On privatisait en venant faire de la politique sur une place. C'est hallucinant. Enfin, voilà, la question pour moi, c'est le partage du gâteau, les inégalités sociales. Voilà, c'est ça, point.
Youssef Brakni.
Oui, non, moi je tiens beaucoup à ce terme de révolution. Moi, je pense qu'il faut un changement radical de la société, c'est-à-dire la révolution, c'est quoi? C'est créer un moment politique, un moment dans la société où il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière, où il ne faut plus revenir à tout ce qu'a dit Louise Eva auparavant, effectivement, où en fait ce sont les mêmes. En réalité, Macron, Sarkozy, Hollande, c'est la même chose. Macron, la seule différence, c'est qu'il t'écrase la figure en rigolant. C'est ça qui a fait péter un câble aux gens, en fait. C'est ça qui a fait que les gens sont sortis, je pense, autant dans la rue avec autant de violence. C'est son mépris, ces Gaulois, ces phrases comme les Gaulois réfractaires, etc., etc. Et je terminerai en disant que il n'y aura aucun changement radical profond, je dis bien profond, de la société sans les quartiers populaires.
Le comité pour Adama appelle d'ailleurs à manifester à nouveau
samedi 8 samedi et prochain. On lance une grande AG de préparation dans la Bourse du Travail de Saint-Denis jeudi, et bien sûr on sera à nouveau samedi 8 sur le terrain, dans la rue.
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre, Farouk Largo, Jeannine Depuit, Youssef Brakni et Louise Moulin, pour avoir participé à cette discussion. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Dulster, Virginie Ledoux, Antoine Trucot et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Peyré Lova. Bienvenue Peyré. à la prise de son. Élise Le, Arnaud Laporte, la dispute.
Hervé Gardette, oui. Bah écoutez, on va pour l'instant suivre le fil normal de notre programmation et parler de spectacle vivant dans 3 minutes. Quelle sera la question du grain à moudre demain, Hervé ?
On se demandera si nous faisons face aujourd'hui à une crise de régime et on le fera avec deux constitutionnalistes, Dominique Rousseau et Anne Levade.
Merci Hervé, on vous retrouve demain pour l'heure. Vous écoutez France Culture, il va être 19h, l'heure de retrouver Tara Schlegel pour les titres de l'actualité.